Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe reste en prison et un intérimaire est nommé directeur de cabinet du président. Le Niger affirme avoir éliminé au moins 75 membres de Boko Haram dans deux opérations militaires distinctes. Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a effectué une visite en Israël la veille de la mise en place du gouvernement d'union. Le point sur la pandémie de coronavirus dans le monde, l'Europe poursuit timidement le déconfinement et dans le nord du Nigeria, une forte augmentation de morts mystérieuses. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal. En République démocratique du Congo, la présidence a annoncé hier soir la nomination d'un intérimaire à la place du directeur de cabinet du chef de l'État, Vital Kamerhe, au lendemain de l'ouverture de son procès. Le point avec Nani Talani.
Consécutivement à l'empêchement circonstanciel de M. Kamerhe, le président Félix Tshisekedi a chargé son directeur de cabinet adjoint, Désiré Casimir Kolongele et Barondé, d'assurer l'intérim selon un communiqué de la présidence. Détenu depuis le 8 avril, Vital Kamerhe est accusé avec deux autres prévenus de détournement de 50 millions de dollars destinés au financement des grands travaux lancés par le président Tshisekedi peu après son investiture en janvier 2019. Monsieur Kamerhe n'a pas démissionné de son poste de directeur de cabinet du chef de l'État. Il a comparu lundi lors de la première audience de son procès renvoyé au 25 mai pour la poursuite de l'instruction. Sa demande de remise en liberté provisoire a encore été rejetée. Il est toujours gardé à la prison civile de Makala à Kinshasa.
Dans le nord-est de la République démocratique du Congo, 7 civils ont été tués et 13 soldats blessés en Ituri, dans le territoire de Djougou. Les violences sont attribuées au groupe armé Codeco, qui prétend défendre les intérêts des Landou, agriculteurs, face aux Emma, qui sont éleveurs et commerçants. Le Niger affirme qu'au moins 75 terroristes de Boko Haram ont été tués lundi dernier dans deux opérations militaires dans le sud-est du pays et en territoire nigérian. Un bilan qui n'a pas pu être vérifié de sources indépendantes. Jacques Aristide.
D'après le ministère nigérien de la Défense, un groupe de 25 terroristes a été tué à Difa. Et une cinquantaine d'éléments ennemis ont été neutralisés dans la zone du lac Tchad, sur le territoire du Nigeria. Les deux opérations ont été menées par la force régionale de lutte contre les djihadistes. Un véhicule, de l'armement, des munitions, 4 motos et divers matériels à usage militaire ont également été récupérés et des abris et des dépôts de logistique des djihadistes détruits. Le 3 mai dernier, le gouvernement nigérien avait fait état de la neutralisation de 50 terroristes dans la région de Tombo-Fulani, un bilan là encore impossible à vérifier de sources indépendantes. Selon l'ONU, la région de Difa abrite plus de 300 000 réfugiés nigérians et déplacés internes nigériens fuyant les exactions commises par Boko Haram et une faction dissidente nommée Groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ou l'ISWAP.
Au Burkina, 8 soldats ont été tués lundi lors d'une attaque djihadiste à Kakanfo-Gouaol, une localité près de la frontière avec le Niger. Un précédent bilan faisait état d'au moins 4 militaires tués et 4 portés disparus. L'attaque a eu lieu lundi lorsqu'une patrouille militaire est tombée dans une embuscade. En Guinée, 7 personnes ont été tuées hier lors de heurts avec les forces de l'ordre liées à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité. À Koya, près de Conakry, les manifestants dénonçant les rackets des agents de l'ordre ont saccagé la police et la gendarmerie. À Kamsar, près de Boké, dans le nord-ouest, une personne est morte quand les gens ont manifesté contre les coupures de courant. En Côte d'Ivoire, un léger remaniement du gouvernement a été annoncé aujourd'hui pour resserrer les rangs autour du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le candidat du parti au pouvoir pour la présidentielle d'octobre est actuellement soigné en France. Deux personnalités qui s'étaient opposées à la désignation en mars du Premier ministre comme candidat, Albert Magri Toiqueuse, président de l'UDPCI, est remplacé par Adama Diawara. Marcel Amon-Tano est remplacé aux affaires étrangères par Ali Koulibaly. Au Nigeria, Ibrahim Gambari est le nouveau chef de cabinet du président Muhammadu Buhari. Il succède à Abba Kyari, décédé le 17 avril 2020. À 75 ans, Gambari a exercé les fonctions de ministre des Affaires étrangères de Buhari lorsqu'il était chef militaire dans les années 80. Il est devenu plus tard sous-secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique pendant le mandat de Kofi Annan. Au Malawi, l'élection présidentielle pourrait être avancée au 23 juin. C'est ce qu'a suggéré aujourd'hui la commission électorale après l'annulation pour fraude de la réélection de Peter Mutharika l'an dernier. Sur requête de l'opposition, la Cour constitutionnelle a annulé en février la victoire du sortant pour cause de fraude caractérisée et ordonné un nouveau scrutin programmé par le Parlement le 2 juillet. Un premier cas de contamination a été rapporté mercredi par le ministère de la Santé du petit royaume du Lesotho. Les autorités du petit royaume enclavé dans l'Afrique du Sud ont imposé un confinement total de 6 semaines à leurs 2 millions d'habitants qui a été levé le 6 mai. Les frontières sont toutefois restées fermées jusqu'à nouvel ordre et le port du masque est obligatoire dans les lieux publics. Le Premier ministre Thomas Taban, 80 ans, assure qu'il est prêt à prendre sa retraite. Depuis que la justice l'a accusé au début de l'année d'avoir participé au meurtre de son ex-épouse en 2017, Thomas Taban a rejeté tous les appels à la démission. Il a suggéré qu'il pourrait présenter sa démission au roi Letsi III dès ce mercredi.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo s'est rendu mercredi à Jérusalem pour des entretiens avec les dirigeants israéliens portant sur leur intention d'annexion des pans de la Cisjordanie. Abdourahman Dia.
La visite du chef de la diplomatie américaine intervient à la veille de la prestation de serment du gouvernement d'unité de Benjamin Netanyahou avec son ex-rival Benny Gantz qui met fin à une année de paralysie politique. Le accord de partage du pouvoir prévoit le dévoilement à partir du 1er juillet d'une stratégie pour mettre en œuvre le projet du président Donald Trump pour débloquer le conflit israélo-palestinien. La visite de Pompeo coïncide également avec une recrudescence de la violence en Cisjordanie. Peu avant son arrivée, un adolescent palestinien a été tué par un tir d'un soldat israélien. La veille, un soldat israélien a été tué par un jet de pierre palestinien. Lors d'un point de presse avec le premier ministre israélien, Mike Pompeo en a profité pour tirer à boulet rouge sur leur ennemi commun, l'Iran. Même durant cette pandémie, les Iraniens utilisent les ressources du régime des ayatollahs pour fomenter la terreur à travers le monde, et ce, alors même que le peuple iranien souffre énormément, a déclaré Mike Pompeo. L'Iran est le pays le plus affecté par l'épidémie au Moyen-Orient, avec plus de 110 000 cas de personnes contaminées.
Toujours en Israël, l'ancien chef de l'armée, Gabi Ashkenazi, sera le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union et d'urgence. Il est entré dans l'armée en 1972 pour gravir tous les échelons et devenir en 2007 le 19e chef d'état-major. En quittant la tête de l'armée en 2011, il a été remplacé par son adjoint Benny Gantz, devenu depuis le chef de leur parti centriste, bleu-blanc. Face à une catastrophe sanitaire mondiale qui a fait plus de 290 500 morts et affecté plus de 4 millions de personnes, tous les pays tentent de trouver le difficile équilibre entre les mesures pour enrayer la propagation du virus et relancer des économies fortement affectées. Eric Manirakiza.
L'Europe poursuit timidement le déconfinement. La Commission européenne s'apprête à présenter mercredi des recommandations pour sauver le secteur touristique cet été. L'Autriche et l'Allemagne prévoient de rétablir à partir du 15 juin la libre circulation à leurs frontières communes. Certains commerces rouvrent mercredi au Royaume-Uni. La France a assoupli les mesures de confinement. Des plages pourraient rouvrir dès ce week-end pour des promenades ou du sport. En Espagne, ils étaient nombreux à retourner dans des bars avec des mesures d'hygiène strictes. L'immunologiste et conseiller de la Maison Blanche, le docteur Anthony Fauci, a mis en garde hier contre des conséquences potentiellement très graves d'une relance économique trop hâtive aux États-Unis, le pays le plus touché par la maladie, avec plus de 82 000 morts. Le tableau se noircit au Brésil, qui enregistre son pire bilan quotidien ce mardi avec 881 décès. L'Afrique est le continent le moins touché par la pandémie. Mais la forte augmentation du nombre de morts mystérieuses dans le nord du Nigeria fait craindre une forte propagation du coronavirus.
L'Arabie Saoudite va mettre en place un couvre-feu total durant les 5 jours de l'Aïd el-Fitr, la fête musulmane qui marque la fin du mois sacré de jeûne du Ramadan. C'est ce qu'a indiqué hier soir le ministère de l'Intérieur face à l'augmentation des nouveaux cas de Covid-19. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'essentiel de l'actualité économique en Afrique, c'est la Minute Éco avec Nani Talani.
Au Mozambique, la Cour constitutionnelle déclare nulle et non avenue la dette de 1,4 milliard de dollars illégalement contractée par des sociétés publiques. Pour la justice, il n'avait pas été approuvé par le Parlement et le gouvernement n'est donc pas tenu à le rembourser. C'est une part des 2,2 milliards de dollars contractés entre 2013 et 2014 par 3 entreprises publiques mozambicaines pour financer des projets de surveillance maritime, de pêche et de chantier naval. Leur découverte en 2016 a conduit à la suspension de l'aide internationale, plongeant le pays dans une grave crise financière. Au Ghana, l'inflation annuelle des prix à la consommation a bondi à 10,6% en avril contre 7,8% en mars en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires suite aux fermetures ordonnées par le gouvernement pour endiguer le coronavirus. Le gouvernement ghanéen s'attend à ce que l'économie ne croisse plus que de 1,5% cette année, le taux le plus bas en près de 4 décennies. Pour terminer, la Tunisie a besoin de 5 milliards d'euros pour boucler son budget 2020. Selon le chef du gouvernement, Elias Fakhfakh, le budget prévoyait déjà un financement externe de plus de 2,5 milliards d'euros. Le confinement a effacé le rebond jusque-là observé dans le tourisme. Il touche sévèrement les petites entreprises, les médias et la culture. L'Union européenne a annoncé fin mars un don de 250 millions d'euros. Le FMI a annoncé début avril un prêt d'urgence de 685 millions d'euros.
Et maintenant, la page sport, présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. La saison de football est définitivement arrêtée au Cameroun. Décision prise par la Fédération camerounaise de football. Après une réunion avec les syndicats des clubs de l'élite et des footballeurs, la commission médicale et celle de sécurité. Du coup, le club PWD de Bamenda, leader du classement de l'élite One, est déclaré champion et représentera le pays en Ligue des champions CAF. Astre de Douala est le vainqueur de l'élite Tout et Louvre remporte le championnat féminin. En revanche, pas de relégation dans aucune catégorie. Les clubs Yafoot FC et Dragon de Yaoundé rejoignent la première division. Le Cameroun rejoint ici l'Éthiopie, Maurice, le Kenya ou encore le Burkina Faso ou la Guinée qui ont déjà mis un terme à leur saison. En République démocratique du Congo, le tout-puissant Mazembe apporte un démenti aux rumeurs faisant état d'une volonté des corbeaux de recruter l'ancien international camerounais Jean de Makoun. Le tout-puissant Mazembe tient à apporter un démenti formel au sujet d'éventuels contacts ou d'une signature avec l'ancien international camerounais Jean de Makoun. Le club regrette d'une façon générale la publication d'informations erronées et non vérifiées auprès de son service de communication, a écrit le club de Lubumbashi dans un communiqué. Ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Lille ou encore Aston Villa, le nom de Makoun avait été cité avec insistance du côté du club louchois. Abdallah Ndour va devoir se trouver un autre club. Le Racing Club de Strasbourg s'est séparé de l'international sénégalais, tout comme de Benjamin Cornier et de Jérémy Grimm. Abdallah Ndour a été désigné révélation en Ligue 2 française lors de la saison 2016-2017, mais il a eu du mal à confirmer son potentiel ces deux dernières saisons. Par contre, la Gioxé a prolongé le contrat de Birama Touré pour 2 saisons supplémentaires, plus une en option. Le Malien est arrivé à l'AGIA en janvier 2017 pour un prêt. Ici aux États-Unis, la Fédération américaine de gymnastique a annulé ses championnats nationaux et d'autres événements majeurs prévus à son calendrier de 2020. Les championnats américains de gymnastique artistique féminine et masculine, initialement prévus du 4 au 7 juin à Fort Worth au Texas, auront lieu dans la même ville du 3 au 6 juin. La fédération dit encore travailler à la programmation d'événements préparatoires aux Jeux de Tokyo reportés à l'été 2021, parmi lesquels les sélections qualificatives ainsi que ces championnats nationaux de gymnastique rythmique, acrobatique et de trampoline, dont les dates seront annoncées dans les prochaines semaines.
Merci, Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes toujours à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, place au dossier du jour. Au Niger, les autorités lèvent progressivement les mesures prises pour freiner la propagation du Covid-19. Après l'annonce de la réouverture prochaine des écoles, les lieux de culte sont désormais ouverts et le couvre-feu nocturne est levé à Niamey. Reportage de notre correspondant, Abdulrazak Idrissa.
Le gouvernement, sur proposition des chefs religieux, après consultation du comité d'experts Covid-19, et au vu de la tendance favorable de l'évolution de la maladie à Covid-19, décide de la réouverture des lieux de culte.
Chez beaucoup de fidèles musulmans, cette annonce de la réouverture des mosquées est comme une délivrance.
Alhamdulillah, alhamdulillah. Les gens étaient coincés. Comment nous allons faire? Wallahi, nous avons évité la catastrophe. Donc les musulmans du Niger vont s'adresser sincèrement, n'est-ce pas, à Dieu et lui demander de nous épargner de cette pandémie.
Ce mercredi matin, les autorités municipales de Niamey ont lancé une campagne de désinfection des principaux lieux de culte de la capitale. Mokhtar Mahmoudou est le président de la délégation spéciale de Niamey.
Nous allons commencer par la grande mosquée, mais nous avons aussi organisé cette opération sous forme de 5 brigades dans les 5 arrondissements. Nous avons déjà établi la liste des grandes mosquées, mais nous avons aussi d'autres petites mosquées dont les prières se tiennent, où il y a des regroupements humains importants. Au-delà de la désinfection, nous allons mettre en tout cas des dispositifs de lavage de mains, des produits. Le traitement que nous allons faire ne concerne pas seulement les mosquées, ça concerne aussi les églises.
Plus de couvre-feu nocturne également à Niamey à compter de ce 13 mai. Pour prendre toutes ces mesures, le gouvernement consulte régulièrement le comité d'experts scientifiques mis en place dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Professeur Mamoudou Seydou, recteur de l'université de Niamey, président du dit comité.
On est dans la courbe descendante, dans la phase descendante de la courbe, mais le risque est là permanent du rebond. Donc il faut consolider les acquis, c'est-à-dire renforcer les trois mesures là, le port du masque, le lavage régulier des mains et la distanciation physique, c'est-à-dire un mètre au moins entre deux personnes. Alors, il y a bien sûr certaines conjonctions de circonstances qui font que une région particulière, notamment Zinder, a quelques cas un peu anormalement plus élevés du fait de la proximité avec un voisin qui a des cas très importants. Et donc, sur lesquels il ne faut pas lâcher prise.
Depuis le 19 mars, près de 900 personnes sont testées positives au virus. Une cinquantaine de décès a été enregistré. Le nombre de guérisons est quant à lui de 648 au 12 mai. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Avec vous, cette semaine dans Washington Forum, le Covid-19 donne un coup d'arrêt au sport. Avec des championnats suspendus, des compétitions internationales reportées ou annulées, des revenus en baisse, le monde du sport est dans la tourmente. Comment les acteurs du milieu sportif vivent-ils cette situation? Comment peut-on espérer un retour à la normale dans les compétitions sportives? La Coupe d'Afrique des Nations 2021 est-elle menacée? Autant de questions que nous allons aborder avec nos invités ce jeudi 14 mai 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Les Africains doivent s'adapter aux nouvelles réalités imposées par la pandémie de coronavirus. Beaucoup se demandent quand leurs activités vont retourner à la normale. L'essentiel des économies se trouve dans le secteur informel, presque totalement à l'arrêt dans plusieurs pays à cause du confinement. À Dakar, au Sénégal, Taïrou Sidibé est entrepreneur dans l'élevage de poulets de chair.
Je suis Taïrou Sidibé, Abax pour les intimes. Je suis entrepreneur et parmi mes différentes activités, l'élevage de poulets. y a eu une récession énorme des ventes. Comme vous le voyez, on fait des bandes de 300 pour ça, on élève. Une fois arrivé à terme, c'est-à-dire à partir de plus de 2 kilos sur pied, on commence à les vendre. Et nos principaux clients sont des supérettes, des restaurants. Et malheureusement, ils sont quasiment tous fermés en ce moment. Derrière eux, on a aussi la vente de proximité dans le quartier. Les familles qui faisaient avant chaque 2 jours ou 3 jours venaient acheter des poulets, en achètent de moins en moins. Maintenant, ça passe à une fois par semaine. Ça se comprend parce que les salaires ne suivent plus, les moyens ne suivent plus. Les gens ont du mal à trouver de l'argent comme ils le faisaient avant. Avant le Covid, j'arrivais à vendre entre mensuellement 300 à 500 poulets, moi. Aujourd'hui, depuis le Covid, surtout depuis le deuxième mois, on a du mal à vendre 100 poulets, moi. Quand je parle de bande, je parle d'arrivage de poussins d'un jour. Entre 45 jours, j'avais 3 fois 300 poulets. Tout en sachant que je prenais 350, en me disant qu'il y a la mortalité dedans et la consommation de la maison dedans, parmi les 50 là. Donc j'arrivais à faire 900 poulets en production en 45 jours. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est en un mois ou 45 jours, 300 au maximum. Ma production est passée à un tiers. Je ne sais pas pour les autres éleveurs, mais personnellement, je n'ai reçu aucune aide. Et moi, en tant que citoyen, je ne m'attends à rien. Franchement. Parce que qui s'attend à quelque chose s'expose à une déception. Et je préfère pas m'attendre de quoi que ce soit venant de la part de qui que ce soit. Je préfère faire mon petit bonhomme de chemin tout seul. Il faut savoir être, je me dis, polyvalent. Savoir s'adapter selon les cas de figure qui existent. Sinon, on est dans un mois béni. Tout ce qu'on fait, c'est prier et demander au bon Dieu de nous aider à sortir de cette pandémie le plus tôt possible.
Taïrou Sidibé, entrepreneur dans l'élevage des poulets de chair à Dakar, au Sénégal.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar, au Sénégal, 24h sur 24.
Direction le Nigeria, où ces dernières semaines, les médias ont fait cas d'une forte augmentation du nombre de décès inexpliqués. Ces morts mystérieuses s'expliquent en partie par le coronavirus dans le nord du pays, majoritairement musulman. À Kano, la seconde ville du pays, avec près de 10 millions d'habitants, les mesures de distanciation rendent la vie encore plus difficile. Bagessikoura a joint sur place à Kano notre confrère Adam Aboubakar Dwarzo.
Le gouvernement fédéral a envoyé des interventions, donc maintenant la situation se contrôle. C'est juste à Bauchi où il y a encore des morts, plus de 150 morts, à Bauchi Azare.
Est-ce que la situation du Covid-19 dans la région est pire qu'ailleurs au Nigeria?
Oui, mais tu sais, c'est pas facile. Toujours, il y a d'augmentation du nombre. Mais de toute façon, avec les précautions que l'État a envisagées, donc maintenant, ça va maintenant.
Alors, on avait parlé de morts mystérieuses il y a quelques semaines, plus de 600 morts. Qu'est-ce qu'on a trouvé finalement? Quelle était la raison?
Oui, mais la raison, selon le docteur Sani Gorzo, qui est l'envoyé spécial du gouvernement fédéral, il avait souligné que d'autres, c'est Corona, et puis d'autres, c'est des maladies, souvent, c'est des maladies, c'est, d'autres sont machos, d'autres sont diabétiques, d'autres ont des tensions, etc. Donc, c'est pas tous les 600 morts qui sont victimes du Corona.
Est-ce que les mesures de distanciation sociale sont toujours en place dans la région?
Oui, les mesures sont prises, mais il faut savoir aussi, les gens sont en train de pleurer parce que l'État a fait de son mieux, mais de toute façon, l'État aussi doit augmenter son effort parce que les gens se disent ils ont faim, ils sont obligés de sortir pour chercher quoi manger. Chaque semaine, on a seulement une seule journée que nous sortons. Donc, mais en sortant, les gens ne respectent pas la distance aussi, vous voyez. Donc, il faut aussi revoir ces mesures aussi.
Est-ce que les mosquées sont ouvertes en ce moment de Ramadan?
Non, jusqu'à présent, les mosquées ne sont pas ouvertes, les mosquées et les églises sont fermées.
Est-ce que la communauté musulmane se plaint de cette situation?
Oui, mais certains se plaignent, mais de toute façon, ils se sont compris comme ils ont une association. Ils se sont compris que ce n'est pas la faute de l'État, c'est la nature qui le permet, ils sont obligés aussi d'adhérer. Je ne pense pas s'il y a des problèmes pour ça aussi.
Notre confrère Adam Aboubakar Guardo, journaliste à Kano, dans le nord du Nigeria. Cameroun, à cause du Covid-19, le tourisme et l'hôtellerie sont durement affectés dans la cité balnéaire de Kribi, au sud du pays. Les hôtels, les plages de cette principale destination touristique subissent une forte baisse de la fréquentation. L'économie locale subit les mêmes dégâts depuis mars dernier. Le reportage de notre correspondant, Emmanuel Jules Tap.
Les vagues de la mer échouent sur les terrasses des hôtels à Kribi. Le spectacle est d'une impressionnante beauté. Mais la vie ne suit plus son cours normal en ces lieux depuis la survenue des premiers cas de Covid-19 au Cameroun. La ville touristique connaît une baisse de fréquentation record des visiteurs. Les jours ouvrables, tout comme le week-end, semblent pareils. Un réceptionniste d'un hôtel 3 étoiles se confie à VOA Afrique sous anonymat.
On vient, on passe la journée, on observe la mer, on s'attend à ce qu'un client ou deux, ils ont encore peur pour manger, boire, peut-être le week-end lorsqu'ils viennent profiter de la plage.
Kribi, avant le Covid-19, a prêté des grandes rencontres, des séminaires de formation, des colloques, des ateliers. Les hôtels faisaient le plein à l'occasion, augmentant par ricochet l'affluence sur les plages. À cela s'ajoutaient de nombreux touristes. Mais depuis le 18 mars dernier, le pays a fermé ses frontières et interdit les regroupements à plus de 50 personnes. Des restrictions qui ont fait plomber le chiffre d'affaires de Julienne Camonier, directrice générale d'une agence de voyage dont la ville de Kribi était l'un des marchés florissants.
Nous ne pouvons pas vendre des chambres d'hôtel, nous ne pouvons pas faire des locations de voitures, on ne peut même pas organiser des grandes rencontres. Nous avons mis tout le personnel en chômage technique parce qu'il fallait bien.
Une vingtaine d'hôtels, plusieurs restaurants ont fermé à Kribi, faute de clients, avant de réouvrir il y a 2 semaines. La plupart ont opté pour des prix promotionnels qui n'attirent toujours pas grand monde. La situation est similaire au débarcadère. Karine et Didier, ils vendent du poisson.
Les clients viennent un peu, mais on prend quand même les précautions. Dès que les clients arrivent, ils se lavent d'abord des mains et on leur demande de mettre leur cache-nez. La situation du débarcadère n'est pas encore bien stable.
Le syndicat patronal des industries du tourisme et de l'hôtellerie ne cache plus son inquiétude sur l'impact du Covid-19 dans ce secteur d'activité. Émile Ngoulou, syndicaliste.
Nous avons eu une chute drastique de la fréquentation qui est de l'ordre de 80 à 90%. Le Covid-19 est un niveau de sinistre que nous n'avons jamais imaginé dans notre profession. C'est une profession qui risque d'être compromise et disparaître à plus d'un endroit. Des activités comme les nôtres sont des activités très coûteuses à l'investissement sur lesquelles on a des crédits.
Le 30 avril dernier, le président de la République a décidé de l'exonération de la taxe de séjour dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration pour le reste de l'exercice 2020. Par ailleurs, le Cameroun va, à compter du 15 juin, accueillir à nouveau sur son territoire des vols commerciaux de la compagnie Air France. Mais le président du groupement interpatronal, le JICAM, a exhorté le gouvernement à aller plus loin et plus vite dans la mise en place des mesures complémentaires propres à restaurer la santé des entreprises. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Un grand merci à toute l'équipe de production qui a permis la réalisation de ce journal. Josène Morissin, Michel Joseph, Lionel Gaïma et Georges-Léonard Sagno. Au micro, Clermont Agibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24h sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayegouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Avec vous, on...